Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Je suis toujours en Israël pour cette édition spéciale et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Myriam Kadouch, jeune femme d'une cinquantaine d'années qui vit à Zichron Yaakov, qui est guide et historienne ici en Israël. Évidemment, Myriam Kadouch, j'ai envie de vous poser la question, quel est l'état d'esprit des Israéliens et des Israéliennes au 115e jour de la guerre?
Alors, écoutez, c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'au 115e jour de la guerre, 4 mois après les événements du 7 octobre qui ont été extrêmement difficiles pour nous, on est dans une situation de très, très grande tristesse encore et toujours. Et en fait, nos cœurs, nos esprits sont restés au 7 octobre. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé dans le temps. On est resté là. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, on est en quelque sorte perdu. On arrive à fonctionner parce que la vie avant tout, Laura. Vous voyez, vous êtes arrivé ici au 115e jour de la guerre, vous avez des gens dans les cafés, la vie a repris, hein, ça a pris un certain temps, la vie a repris à Tel Aviv, les gens ont recommencé à sortir, les business essayent d'ouvrir, bien que beaucoup d'entre eux souffrent et restent encore fermés, mais il y a quand même un ressort pour aller vers la vie. Parce que c'est ça, Israël, c'est d'abord la vie avant tout. Mais il faut dire qu'il y a une grande tristesse. On est comme pas seulement collé aux nouvelles, pas seulement on est encore, comment dire, happé par cette énorme tristesse qui est collante, qui nous colle à la peau. On se lève le matin, on ne sait pas par quoi commencer. On est en fait endeuillé. Et comme tous les endeuillés, on a du mal à réaliser vraiment ce qui s'est passé et les questions qui, tous les matins, reviennent, et même le soir, on n'arrive pas à fermer l'œil. Les otages nous accompagnent du matin au soir. Au milieu de la nuit, on se réveille pour penser aux otages, pour y rêver, pour rêver qu'un jour ils sortent de ces tunnels, pour qu'un jour on les retrouve. Et en fait, si on a l'impression d'un côté qu'on est tout à fait normal, c'est ça la chose un petit peu paradoxale, c'est qu'on a l'impression d'être normaux, mais on est on est malade d'une maladie transparente. Hein, ça ne se voit pas toujours, mais ceux qui nous connaissent savent que c'est une situation qui n'est pas normale.
Encore aujourd'hui, plus d'une dizaine de roquettes ont été envoyées sur l'État hébreu. Depuis le 7 octobre, c'est quasiment devenu une habitude de recevoir autant de roquettes. Comment perçoivent ces agressions permanentes les Israéliens et les Israéliennes?
Eh bien, écoutez, je voudrais pas dire qu'on a l'habitude, mais depuis le 7 octobre, les choses ne sont plus les mêmes. On avait bien sûr l'habitude d'attaques terroristes, de roquettes dans certaines régions plus que dans d'autres. Aujourd'hui, c'est dans tout Israël. Aujourd'hui, Laura, nous étions ensemble dans le nord. Nous avons vu la frontière nord d'Israël. Nous avons compris que la menace du Hezbollah pèse sur nous de manière de plus en plus pesante et que la menace du Hezbollah existe depuis de nombreuses années. Et il est temps de voir que les menaces qui sont données par nos ennemis sont de vraies menaces. Le problème qu'il y a eu le 7 octobre, c'est qu'on n'a peut-être pas pris au sérieux notre adversaire. Et c'est là où nous avons péché. Donc, que dire de ces roquettes? Nous avons pris en quelque sorte l'habitude de ces roquettes. Nous savons que nous avons un ennemi extrêmement cruel, extrêmement déterminé. Et nous faisons tout, évidemment, pour arrêter ces roquettes. Hein. Vous connaissez comme moi le Dôme du Fer, qui fait un travail extraordinaire. Mais on voit maintenant l'acharnement plus que jamais parce que nos ennemis ont vu une faille en Israël. Et ces roquettes tombent de plus en plus pour nous indiquer qu'ils sont prêts à nous attaquer encore une fois. Donc, en fait, il s'agit de préparer Israël à une prochaine guerre régionale qui, à mon avis, se prépare.
Vous qui connaissez ce territoire par cœur, du nord au sud, d'est en ouest, quel futur vous voyez pour votre pays?
Alors personnellement, et je ne sais pas, je ne parlerai que pour moi parce que c'est quelque chose de très très personnel, c'est quelque chose qui est lié évidemment aux politiques et chacun avec ses opinions, mais tous les tantôt, nous avons des conflits avec Gaza. Hein, tous les 2-3 ans, et c'est ainsi, et ça pourra durer jusqu'à très longtemps, et nous l'avons vu le 7 octobre. Certains vous diront, non, il faut rentrer à Gaza, il faut s'établir à Gaza, alors qu'on a fait un gros effort en 2005 pour quitter Gaza, et maintenant il s'agirait encore une fois de s'y implanter. Personnellement, mon opinion est autre. Mon opinion est la suivante, nous n'avons pas le choix, nous n'avons nul autre pays où aller, Israël est notre pays, mais c'est également le pays de ces Palestiniens. Il y a deux populations qui habitent ici, qui n'ont pas le choix et qui devront un jour ou l'autre se mettre d'accord. Il ne s'agit pas de peace and love, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, il s'agit de négociation, de trouver un terrain d'entente. Nous l'avons fait avec l'Égypte. Depuis 40 ans, il n'y a pas de guerre avec l'Égypte. Nous avons fait un accord avec la Jordanie, c'est vrai. Les histoires, les intérêts sont différents. Mais en même temps, nous n'avons pas le choix. Et nous devons absolument trouver un moyen de nous asseoir, même s'il faut, à mon opinion, même s'il faut s'asseoir avec le Hamas, nous devons négocier avec l'ennemi parce que nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons rester légitimes dans cette région, légitimes dans notre pays, et nous ne pouvons pas aller de guerre en guerre ad vitam aeternam.
Comment percevez-vous les critiques de l'intérieur ? Parce qu'Israël est très critiqué depuis son entrée à Gaza. Comment vous, en tant qu'israélienne, en tant qu'historienne, vous percevez ces critiques qui arrivent de partout dans le monde ?
Alors, je ne suis pas surprise. Je pense qu'Israël a toujours été le bouclier, le scapegoat, comme on dit en anglais, le bouclier de tous les malheurs. Cet antisémitisme qui a déferlé dans le monde d'une manière, alors certains diront surprenante, d'une manière tellement violente, est quelque chose qui fait mal au cœur, mais en même temps, j'ai l'impression que Israël, comme toujours d'ailleurs, est celui qui reçoit, j'allais pas dire quelque part le sac poubelle du monde. En fait, on accuse Israël de tous les maux. Et là, on accuse Israël de colonisateur, d'impérialiste, ces choses-là, ces mots dont les grandes puissances ont été accusées, hein, la France, l'Angleterre pour leur colonie. Eh bien, le monde se réveille, le Sud en quelque sorte. Hein, entre guillemets, se réveille pour accuser Israël, qui porte en lui, si vous voulez, qui est accusé de toutes ces accusations, de tous ces maux, au nom de l'impérialisme, au nom des pays avancés, démocrates, lettrés, au nom de ce Nord, hein, avancé. Israël reçoit, si vous voulez, toutes ces insultes du monde du Sud, et c'est ça qui est intéressant. Israël restera toujours le bouclier, et il faut donc un petit peu s'éloigner de ces critiques, être sûr de soi, savoir que nous essayons de faire le mieux dans une situation extrêmement difficile. Bien sûr que ça fait mal au cœur de voir tant d'enfants mourir, bien évidemment, qui n'aurait pas de peine, mais c'est la guerre, et lorsque c'est la guerre, des gens meurent d'un côté comme de l'autre. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé le 7 octobre est sans précédent. C'est un pogrom sans précédent, non pas à l'étranger, mais en Israël, sur notre propre terre. Des choses horribles que nous avons vues, qui n'ont jamais eu lieu. Et sur notre propre terre, c'est pas seulement une humiliation, un choc, mais il faut répliquer. Israël ne devait répliquer, Israël doit répliquer. Et Israël doit prouver au monde qu'il a tout, il est dans toute sa légitimité d'être ici. Oui, c'est la guerre, c'est difficile, mais il faut qu'un jour cela s'arrête et qu'on trouve un moyen de négocier même avec notre ennemi.
On va finir cette interview par les otages. Évidemment, on doit parler de ces otages, ces 138 hommes, femmes qui sont encore détenus dans les tunnels de Gaza. Encore une fois, j'ai envie d'avoir votre point de vue en tant qu'israélienne, en tant que personne native de cette terre. J'imagine que quand vous vous couchez tous les soirs, vous pensez à ces femmes qui sont dans des lieux probablement terribles. J'ai envie de vous entendre sur les otages.
Alors Laura, c'est pas qu'on pense à ces otages, c'est qu'on est habité par ces otages. C'est pas pareil. Être habité par les otages, c'est qu'ils sont sans arrêt avec nous. Il n'y a pas une seule seconde, une seule minute, une seule journée où on ne pense pas à ces otages et que les noms de ces otages nous viennent à l'esprit et qu'on y pense personnellement comme un fils, une fille, une sœur, un frère. Et ils sont là, ils nous hantent, ils nous habitent. Et personnellement, puisque vous me posez la question, Laura, j'y pense constamment avant de me coucher. J'ai souvent des cauchemars. Je m'imagine être dans les tunnels avec eux, de les retrouver. C'est quelque chose d'impensable qu'au bout du 115e jour, les otages soient encore là-bas, aux mains de l'ennemi. Nous ne savons pas où ils sont. Incroyable de penser que le monde ne se soit pas manifesté pour ces otages, que l'ONU n'ait rien dit, que les droits des femmes n'aient même pas été côtoyés par ces femmes de l'ONU qui n'ont rien dit. Le monde se tait. Et nous sommes là, au 115e jour, sans ces pauvres personnes que nous aimons tant et que nous attendons impatiemment. Et plus on attend, et plus nous sommes pessimistes. Et donc, ce n'est pas que nous pensons à ces otages, nous sommes habités par tous ces otages, les uns après les autres, les 136 otages qui y restent et qui doivent revenir au sein de leur famille le plus vite possible.
Merci beaucoup Myriam Kadouch pour ce témoignage et puis je tiens personnellement à vous remercier parce que vous êtes notre guide depuis ce matin et c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire, vous expliquez parfaitement l'histoire de ce pays, vous mettez aussi en parallèle ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est important pour nous journalistes français de comprendre aussi parce qu'on entend beaucoup de choses à travers les médias américains, anglais, français, mais aujourd'hui on voit les choses d'une autre manière grâce à vous, alors merci encore Myriam.